l'émission cinéma mensuelle de Nathalie Slaen. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans Film et moi, votre rendez-vous mensuel cinéma sur Jet, la radio indestructible, toujours curieuse et audacieuse. Ce mois-ci, nous parlerons coup de cœur à voir dans vos salles préférées, de l'actualité locale du cinéma sous toutes ses formes, et nous parlerons aujourd'hui prise de son et post-production avec notre invité Raphaël Bigot, chef opérateur du son, qui nous parlera aussi de quelques films de son choix. Bonjour Raphaël, ravi de t'accueillir dans Film et moi.
Bonjour.
Commençons par mon coup de cœur de l'automne. Après ça, un des sons présents dans le film.
J'envoie des kisses, donne des bijoux dans le cou. C'est beau, mais quand même, ce ne sont que des cailloux. Des pierres qui vous roulent, roulent et qui vous coulent sur les joues. J'aime mieux que tu m'aimes sans dépenser des sous. Moi, je m'en moque, j'envoie valser les trucs en toc. Les cages dorées, toi quand tu me sers très fort, c'est comme un trésor, et ça vaut de l'or. J'envoie des qui se lancent, des regards et des fleurs, puis qui se laissent quelque part ou ailleurs, entre les roses et les choux. J'en connais des tas qui feraient mieux de s'aimer un peu comme nous qui nous aimons beaucoup, et d'envoyer ailleurs valser les bagues et les cœurs en collier. Comme un trésor, et ça vaut de l'or.
Mon coup de cœur de l'automne, c'est le film de Hafsia Herzi, La Petite Dernière. Le film a été présenté à Cannes cette année dans la sélection officielle et Nadia Meliti a obtenu le prix d'interprétation pour le rôle principal du film. Hafsia Herzi a adapté le roman de Fatima Das, La Petite Dernière, publié en 2020, et qui avait obtenu un succès critique et public. Alors, c'est l'histoire de Fatima, la benjamine d'une famille d'origine algérienne, installée dans la région parisienne, dans un quartier populaire. Fatima est une élève lycéenne brillante, elle devient étudiante en philo. Elle est soutenue par des parents et des sœurs aimants, et entourée d'une bande de potes protecteurs. Et Fatima, elle a un secret. Elle aime les filles, mais personne ne doit le savoir. On suit donc ses premiers émois sensuels et amoureux quand elle découvre le plaisir charnel et la souffrance d'une première séparation. Dans cette histoire d'apprentissage, Fatima se questionne, expérimente et apprend à se connaître. Les scènes d'amour sont filmées avec sensibilité et sensualité, et aussi avec une certaine pudeur qui fait écho à la pudeur de l'héroïne. Fatima s'ouvre et se découvre au contact de Junna, interprétée par la sensible Park Ji-min, et plus encore avec Cassandra, interprétée par la puissante Mouna Swalem, qui l'emmène faire la fête joyeusement dans les boîtes lesbiennes et lui fait aussi découvrir l'amour à trois. Fatima est pratiquante. Elle est prise dans un conflit de loyauté vis-à-vis de sa religion. L'imam qu'elle consulte soi-disant pour une amie lui confirme qu'il s'agit d'une pratique prohibée de tout temps et par toutes les religions. Tout en ressentant une bienveillance particulière et de la compassion pour cette fidèle en souffrance. Alors, comment devenir soi-même, en composant avec les attaches sociales et religieuses? Comment se débarrasser de la honte, de la peur d'être rejeté? Comment accéder à l'émancipation, évoquée par un des professeurs de philo de Fatima, par le traité de la servitude volontaire de la Boétie? Ce qui domine dans les relations entre les personnages du film et ce qui les sauve, c'est l'attention à l'autre. Et les tensions narratives ne sont jamais forcées. La réalisatrice, elle ausculte avec finesse ses passions, la complexité de ce qui fait une identité, avec force, et du point de vue d'une héroïne sur le chemin de l'émancipation. Avzia Herzi, elle aime filmer au plus près les visages, les larmes entremêlées de morve, les rires complices, les regards intenses, suppliants ou conquérants. Elle sonde au plus près de l'âme humaine, dans une mise en scène qui capte l'air qui circule entre les corps et nous les rend profondément humains et vibrants. Nadia Meliti, actrice non professionnelle qui interprète Fatima, est tantôt lumineuse et solaire, tantôt bouleversante dans son mal-être. Elle porte véritablement le film sur ses épaules. Le tournage du film avec 3 caméras s'est déroulé sur 8 semaines. Les séquences de figuration pour les scènes de fête joyeuses et amples ont nécessité un certain budget, que la productrice a finalisé en allant chercher des financements aussi en Allemagne, où le roman de Fatima Das avait rencontré un succès public et critique. Ce film bouleversant, il touche au plus près. Alors courez le voir dans vos salles préférées. À Nantes, ce sera au 14A ou au Pâté. À Saint-Nazaire, au cinéma Jacques Tati. Au Pouliguen, au cinéma Pax. Et à La Turballe, au cinéma Atlantique. Alors commençons par explorer les choix de notre invité après ça. C'est un des sons du film américain de Mike Judge, sorti en 2006 avec Ethan Coen au scénario. Donc c'est le film Idiocratie. Voilà. Mike Judge, c'est le créateur de la série animée Beavis et Butthead. On trouve dans ce film aussi dans les rôles principaux Luke Wilson et Maya Rudolph. Donc c'est une comédie satirique de science-fiction, on peut dire comme ça. Une dystopie très déjantée, une sorte de mix entre Beavis et Butthead, Black Mirror et peut-être un peu Retour vers le futur aussi. Alors c'est l'histoire de Joe Bowers, militaire affecté aux archives. C'est une planque tranquille qui lui sied parfaitement. Un jour, il est réquisitionné avec une prostituée, Rita. Et Rita, elle est livrée par son proxénète au responsable du programme de l'armée pour participer à une expérience, rester enfermé pendant 1 an dans un caisson pour tester l'efficacité d'un médicament qui favoriserait l'hibernation pour préserver les meilleurs éléments jusqu'aux périodes de conflit. Mais tout se détraque, ils sont oubliés dans leur caisson et après une hibernation de 5 siècles, ils se réveillent en 2525 dans une société où règne l'anti-intellectualisme, la malbouffe, le mercantilisme débridé, la dégradation de l'environnement, la surpopulation. Et en préambule, le réalisateur il nous donne une clé pour expliquer cette transformation assez radicale de la société. L'espèce humaine se serait crétinisée, car les idiots auraient fait plus d'enfants que les gens intelligents, ce qui aurait entraîné au fil des années une baisse générale du QI de la population. Et ce présupposé, il permet aux réalisateurs, aux scénaristes d'amplifier, de parodier les travers populistes et mercantiles de la société américaine. Alors Joe et Rita, dans tout ça, ils essaient de survivre. Joe, il est arrêté, emprisonné pour non-respect du port du code-barre, parce que le code-barre est obligatoire, le code-barre au poignet. Et il est ensuite finalement reconnu comme l'homme le plus intelligent au monde. Il est propulsé secrétaire d'État à l'intérieur avant de devenir président des États-Unis, ce qui laisse entrevoir un peu d'espoir ou pas. Alors, c'est d'un humour
débridé, très potache, à base de répliques vulgaires, de violences en tout genre. Alors ça semble vraiment loufoque, absurde, mais derrière la façade humoristique, il y a un propos. Alors on y trouve beaucoup d'ingrédients du 21e siècle, en réalité à l'heure du règne, en particulier de l'Amérique de Trump, donc l'anti-intellectualisme dont je parlais tout à l'heure, la post-vérité avec Charlie Chaplin par exemple qui est présenté comme un adepte des nazis, donc réécriture de l'histoire, disparition des livres, glorification de la société de consommation et de la société de divertissement complètement abrutissante avec des fauteuils, écrans lobotomisants, des montagnes de déchets à ciel ouvert et une fragilisation finale des démocraties. Alors finalement, ils étaient peut-être assez visionnaires en 2006 parce qu'ils ont en quelque sorte prédit d'une certaine façon l'élection de Trump. D'ailleurs, les réalisateurs, ils ont dû batailler avec les producteurs qui voyaient d'un mauvais œil la critique de la société de consommation, en particulier de certaines marques qu'ils citent nommément dans le film et qu'ils tournent en dérision. Et par conséquent, le film n'a bénéficié d'aucune promotion. Il a été distribué dans très peu de salles et il a fait forcément un flop. Sauf qu'il est devenu quasi culte lors de la sortie du DVD sous le nom de Planet Stupid. Alors ça, c'est très étrange. Hein. Les distributeurs changent un nom anglais pour un autre nom anglais. Et donc, en France, il sort sous ce nom-là et il devient un film culte. Alors, moi, j'ai une petite interrogation, c'est que ce film, il serait un des films préférés de Elon Musk. Alors, c'est sans doute la défaite de ses ennemis politiques, cultivés, démocrates, qui réjouit Musk dans le film. Ça conforte son idée que les élites de Washington conduisent le pays à la ruine. Bon, sans doute qu'il néglige le fait ou qu'il n'est pas capable de percevoir que le film, il est profondément démocrate, parce qu'il moque évidemment les dangers que fait courir à la démocratie américaine un personnage politique de plus en plus populiste, comme le président dans le film, Camacho, qui est un ancien acteur de film porno, catcheur, qui flatte ses partisans dans le sens du poil, qui est complètement survolté lors des meetings où il assène des mensonges, il affiche une vulgarité complètement assumée pour faire peuple, et il ressemble étrangement par beaucoup d'aspects au président actuel. Et moi, il m'a aussi fait penser à Milei, le président argentin, qui très récemment a fait un show musical, complètement halluciné devant ses fans en délire, donc pas très loin de Camacho, dans le film Idiocratie. En 2016, lors de la campagne présidentielle qui a mené au premier mandat de Trump, les réalisateurs, ils ont voulu faire de ce grotesque président de fiction, donc Camacho, le héros de fausse publicité. Eh bien, la 20th Century Fox, qui détenait les droits du film, s'y est opposée. Donc, Raphaël, pourquoi ce choix d'idiocratie ?
Cette présentation-là parle d'elle-même. En fait, d'un point de vue cinématographique, ce film-là, on ne va pas se mentir, il est très mauvais. Ouais. C'est mal joué, tout est abusif, caricatural. Et à l'époque où il est sorti, en fait, on se disait, c'est pas possible, quoi. Ça n'arrivera jamais. Mm. Et on l'a oublié, ce film. Moi, je l'ai vu à l'époque, et régulièrement, en suivant l'actualité, j'y repense. Et ce qui en fait un film marquant. On y repense et en fait, l'action se déroule en 2500, quelque chose comme ça. Mais en réalité, aujourd'hui, on pourrait s'imaginer qu'ils se sont réveillés en 2025. Oui. Les parallèles, en fait, la liste des parallèles est infinie.
Oui, complètement.
Et donc voilà, de ce film-là, moi, j'ai dit que c'est un nanar prophétique. Un film, malgré toutes ses imperfections, peut être quand même marquant. Et c'est ça qui compte. Et c'est des pistes aussi de réflexion. Sous un premier abord très léger, la comédie, elle permet ça, en fait, de traiter des sujets très, très sérieux, en toute détente, en dédramatisant les choses. Et ça, j'aime bien dans le cinéma. On n'est pas obligé d'avoir forcément toujours des préoccupations très
sérieuses.
Actuelles ou ouais, sérieuses. Ouais, voilà, c'est, ouais. Ça peut être aussi un divertissement qui allie aussi la réflexion.
Oui, c'est là, à mon sens, où elles sont réussies, d'ailleurs.
Et oui.
Quand ça permet quand même de montrer des choses de la société, de nous-mêmes, de nous renvoyer à des choses qui nous font rire aussi par rapport à nous-mêmes peut-être. Une forme d'autodérision aussi dans beaucoup de comédies qui rend ce genre effectivement complètement acceptable.
Ça rend les choses accessibles, la comédie. Mmh. C'est sa grande force.
Oui, tout à fait. Tu l'as vu quand, ce film, à sa sortie ou...
Je pense que j'ai dû faire partie des gens qui l'ont vu quand il est sorti en DVD. Ouais. Je ne l'ai pas vu en salle. Je ne sais même pas s'il est arrivé jusqu'en France.
Non, je ne crois pas. Je ne pense pas.
Ouais. Mais il y a eu un petit retour après qui fait qu'on en a parlé. Et c'est devenu un peu culte. Oui,
complètement. Idiocratie. Alors, continuons à explorer les choix de notre invité avec ça.
Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que l'usine va fermer. Mais votre société a toujours su affronter le vent mauvais.
Tu vas tout, putain. Tout le monde est au Vietnam, maintenant.
Alors, mes amis, battez-vous !
Sors !
Les fumiers. 2000 euros pour se crever 20 ans au boulot ? On pourrait faire buter le patron par un professionnel.
Oui, c'est Madame Louise. Elles ont nous volé des fumiers.
C'est peut-être bien qu'on parle du...
Combien ?
20 000 euros.
Laissez-moi réfléchir un petit peu. T'es d'accord ?
J'ai trouvé l'oiseau rare.
Il a fait plein de trucs. Hein. Il a fait la Corée du Sud. Kennedy, c'est lui. Bah bon, faut pas trop le dire.
Vous êtes des professionnels ? Je suis un professionnel. Et ensemble, on va faire du bon business.
Michel, il est pas
moi. Bon Dieu, Michel, tu as un homme au moins une fois dans ta vie.
Mais butez le bon, hein, parce que nous, on n'a pas la fortune de Bill Gates. Hein.
Si vous n'êtes pas content, vous n'avez qu'à buter le patron vous-même à la mare à la fin. Je pars au Robocop, moi.
Alors, Raphaël, tu as reconnu.
Oui, Louise Michel.
Oui, voilà, c'est le film donc, de Gustave Kervén et Benoît de Lupine, sorti en 2008. C'est un petit bijou d'humour noir des réalisateurs, donc les auteurs de l'émission Groland en particulier. C'était leur troisième long métrage après Altra et Avida. Et avant, Le Grand Soir, I Feel Good, Saint-Amour, Effacer le historique en 2020, qui sont des films, à mon sens, beaucoup plus gentillets et moins mordants que celui-là. Alors, c'est l'histoire d'un patron qui délocalise son usine de textile, déménage ses machines en une nuit, sans prévenir les ouvrières qu'il emploie. Donc, les ouvrières décident de mettre leurs indemnités en commun, 2000 euros, comme on l'entend dans la bande-annonce. Et sur proposition de Louise, une des ouvrières, incarnée par l'irremplaçable Yolande Moreau, elles font appel à Michel, un tueur professionnel pour assassiner le patron indigne. Mais hélas, ce tueur à gages, ancien légionnaire, interprété par le génial Bouly Lanners, se révèle complètement incompétent et très lâche. Donc Louise, l'ouvrière analphabète, va devoir l'assister pour qu'il puisse exécuter son contrat. Alors ils partent dans un périple qui les mène de la Picardie à Bruxelles, à Jersey, à la poursuite du patron voyou. Alors bien sûr, le titre y fait référence à la militante anarchiste figure de la Commune de Paris. Dans le film, on aperçoit aussi Philippe Catherine, en chanteur de cabaret, Mathieu Kassovitz, en propriétaire de ferme bio, Albert Dupontel, ciné... Benoît Poelvoorde, un ingénieur parano complètement déglingué, une clique d'acteurs qui se prête avec malice et complicité à l'amusement cynique, contestataire et aussi très tendre des réalisateurs. Alors, la mise en scène de l'obscénité du capitalisme et de la vengeance du prolétariat, elle est assez jubilatoire. Mais il s'agit aussi de l'histoire de Louise et de Michel, couple improbable, dont l'histoire... renvoyait déjà à l'époque à l'idée que les genres sont construits par la société, dans une vision, pour l'époque, déjà assez intersectionnelle, finalement. Donc je ne vous raconterai pas la fin, hein, si vous souhaitez le voir ou le revoir. Donc c'est une espèce de farce carnavalesque, dans la meilleure tradition des comédies satiriques et trash belges. Et alors, il nous prédisait l'insurrection qui vient, mais qui, plus de 15 ans après, tarde à venir. Mais le film, il est forcément totalement encore au diapason de cette déliquescence sociale et de l'ultra ultra-libéralisme assez obscène de la société. Alors Raphaël, pourquoi ce choix ?
En fait, j'ai choisi un film de Kervern et Delépine, mais ça aurait pu être un autre, parce que bah, je me retrouve en fait dans ce cinéma-là. Je sais qu'on va passer un bon moment, que ça va fonctionner, parce qu'ils ont une approche qui est très, pour moi, qui est très juste. C'est très simple, c'est humble, c'est efficace. Il n'y a pas de chichi. Alors, au prix de quelques imperfections, c'est sûr, mais finalement, c'est anecdotique au regard de l'ensemble. Et puis, c'est des films qui ont du sens aussi. Oui. On a toujours des personnages qui sont dans des quêtes. Bon, bah là, c'est, oui, c'est un schéma un peu classique, western, vengeance. Oui. C'est un peu caricatural.
Et ce sont des gens un peu à la marge.
Aussi, oui.
Des anti-héros, finalement, que certains pourraient appeler des losers, mais qui sont très, très attachants. Alors, il y a la mise en scène aussi qui participe vraiment au comique. La première scène au funérarium, je ne sais pas si tu te souviens, elle est géniale. C'est vraiment une pépite d'humour noir, drôlissime.
Et donc, il y a plein de petites astuces comme ça de mise en scène, mais qui ne passent pas par une virtuosité technique. C'est des choses simples.
Mais...
Et moi, je suis sensible au son. Ils trouvent toujours des petits détails. Là, dans le funérarium, ça va être le chariot qui fonctionne pas.
Pour monter le cercueil.
Tout va de travers et ça passe aussi par le son. Quoi.
Ils
trouvent toujours dans chacune de leurs séquences une petite friandise comme ça qui va venir souligner le burlesque ou le ridicule de la situation.
Oui. Ils savent écrire ça, c'est clair. Ouais. Alors il y a Bouly Saners aussi, ce comédien qui est assez génial, qui est peintre, réalisateur, qui est marionnettiste aussi. Là, il a une troupe de marionnettistes. Il a eu le César du meilleur second rôle pour La nuit du 12 de Dominique Moll. Il a eu des seconds rôles dans les films de Dupontel, Second Tour, Adieu les cons. Et il interprète José Bové dans Une affaire de principe d'Antoine Rimbaud qui est sorti en 2024. Et puis Yolande Moreau, évidemment, avec son dernier film, je ne sais pas si tu l'as vu, La fiancée des poètes, qui est sorti en 2023. Où là, c'est plus un aspect poétique sur la poésie comme une arme de défense massive contre l'inhumanité. Alors c'est aussi un univers assez particulier.
J'ai l'impression qu'ils sont un peu, je ne sais pas ce que ça donne en termes de box-office, mais qu'ils sont quand même un peu à la marge. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce duo de réalisateurs, parce qu'ils méritent d'être connus.
Oui, complètement. Mais je pense qu'ils ont vraiment, ils ont leur public quand même. Oui, hein. Comme quoi, ça donne de l'espoir, parce qu'il n'y a pas que les choses mainstream qui fonctionnent, mais qu'il y a des personnes qui n'ont pas besoin de faire beaucoup de publicité et puis vont rencontrer leur public.
Et c'est très bien comme ça, en fait, que ça soit plus ou moins confidentiel. C'est le jeu aussi. Et je ne pense pas qu'ils font des films pour faire des entrées. Mais avant tout, peut-être pour raconter des histoires.
Oui, ou pour pouvoir faire d'autres films aussi après. L'essentiel pour eux, ça doit être ça aussi. Hein. Ils puissent continuer à explorer plein de voies avec cette approche tellement, tellement particulière du burlesque qu'ils ont.
En tout cas, ce qui les caractérise, c'est que dans leur démarche, il y a une forme d'honnêteté. Et ils ne vont pas s'encombrer ou faire des concessions pour aller séduire un public plus large. En fait, c'est un cinéma sans concession.
Ouais.
Et voilà. Et c'est ça qui est vraiment remarquable.
Bien sûr, il n'y a pas de chichi, même dans les personnages, les acteurs. Ils sont bruts, quoi. Ils sont, on croirait reconnaître nos voisins. Enfin, je veux dire, c'est pas du tout sophistiqué. C'est très très loin de la sophistication de certains films mainstream, complètement. Et c'est peut-être pour ça que ça marche aussi. Hein. C'est que on reconnaît une forme d'humanité.
Oui. À mon sens, l'authenticité, c'est quelque chose d'essentiel dans la réalisation.
Pensez aux des chiens aussi, d'une certaine façon. Oui. Dans le côté authentique, pas. C'est encore autre chose. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2, à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle de cinéma, en compagnie de Raphaël Bigot, chef opérateur du son. Continuons à explorer les choix de l'invité après ça.
Cheer up, Bond. You know what they say? Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Come on! Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath.
Alors tu as reconnu Raphaël, forcément.
Ouais.
Oui, ok. Alors c'est le, ouais, c'est le, la, la chanson de la scène cultissime de crucifixion du film La vie de Brian, des Monty Python, ou plus précisément de Terry Jones, réalisateur, qui est sorti en 1979. Alors les Monty Python, c'était donc une troupe d'humoristes britanniques qui sont rendus célèbres par leur émission burlesque et absurde Monty Python's Flying Circus, diffusée sur la BBC de 1969 à 1974. La vie de Brian, il a été tourné après Sacré Graal et avant Le Sens de la Vie. Donc c'est une sorte de fable biblique, hilarante, irrévérencieuse, dans laquelle les Monty Python revisitent en quelque sorte l'histoire de Jésus-Christ. Alors, c'est l'histoire de Brian, comme son nom, comme le titre l'indique, qui est né en l'an 0 à Bethléem, d'une mère possessive et revêche. Alors d'abord, cette mère elle refuse l'entrée de sa crèche au roi mage, qui se trompe d'étable, parce que Brian, il est voisin de Jésus. Mais la mère, appâtée par les présents, elle décide de leur ouvrir la porte. Et puis un samedi de l'an 33, alors que Brian veut aller écouter un certain sermon sur la montagne, sa mère l'entraîne à une lapidation. Et donc Brian devient membre du front de peuple de Judée. Et Brian le rebelle couvre le palais du gouvernement de graffitis anti-romains. Donc il cherche à fuir. Il se retrouve à prêcher sans le vouloir au milieu de la foule pour faire diversion. Mais il réussit à persuader les badauds, pour qui il devient un messie malgré lui. Mais Ponce Pilate, il s'en moque. Et Brian, il est arrêté par les Romains qui le conduisent à la crucifixion. Et pendant ce temps, le leader du front du peuple de Judée se frotte les mains. Car le sacrifice de Brian lui fournit une publicité inespérée. Et donc, il devient le martyr de la cause. Donc, les Monty Python, ils tirent à vue sur les codes de la grande fresque historique biblique hollywoodienne et se faisant sur leur époque. C'est pas du tout du blasphème gratuit, c'est plutôt la veulerie, la bêtise, le fanatisme qui intéresse les Monty Python et qui aiguise leurs plumes avec un chapelet de répliques, de situations complètement jubilatoires, comme la scène des femmes qui portent la barbe pour espionner les éventuels blasphémateurs ou la scène hilarante de lapidation. Donc le casting, il est dominé par John Cleese, qui, comme les autres, joue plusieurs personnages, plusieurs dizaines de personnages en tout. Alors, il joue John Cleese, par exemple, Reg, le chef du front du peuple de Judée. Graham Chapman, un autre des Monty Python, joue Brian. Et Terry Jones joue la mère de Brian. Alors, il y a aussi George Harrison, qui fait une apparition dans le film, qui était un grand fan de leur travail et qui a financé le film en partie. Quand il est sorti, il a eu quelques soucis avec la censure.
Il a été interdit dans certaines régions d'Angleterre. Il a été interdit 8 ans en Irlande et 1 an en Norvège. Alors, ce que la production a exploité pour sa promotion en annonçant un film tellement drôle que les Norvégiens ont dû l'interdire. Alors, aux États-Unis, il y a eu des manifestants qui ont tenté d'interdire la projection. Il a été jugé blasphématoire aux États-Unis par le conseil rabbinique, par les responsables protestants, les responsables catholiques. Alors, la chanson qu'on a entendue, « Always look on the bright side of life », c'est Eric Idle qui l'avait écrite pour prendre le contre-pied des niaiseries de Walt Disney. Et c'est devenu un symbole du rire face à l'adversité. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce que cette chanson est devenue. Elle est chantée par des supporters de foot britanniques. Elle est même chantée aux enterrements, encore aujourd'hui, au Royaume-Uni. Alors, Raphaël, pourquoi ce choix ?
Cette chanson, ouais, je l'adore. Ouais. Par contre, je ne savais pas tout ça. Mm. Je viens d'apprendre pas mal de choses. On peut chanter cette chanson.
Eh oui, elle est devenue culte. Ouais, ouais. Fou.
Oui, mm. Et ben, moi, je l'écoute ouais. Moi, avec mes enfants.
Et voilà.
Ouais. Et je ne savais pas non plus que George Harrison avait financé ce film.
Ouais. Ouais. Il était fan du travail de Monty Python. Donc, voilà, il n'a pas hésité à financer.
Oui, parce que ça fait partie des films qui restent, encore une fois, par sa drôlerie, sa légèreté. Et puis... Là, je me rends compte que la sélection, quand même, elle est très, très portée comédie.
Oui.
Alors que ce n'est pas forcément, moi, le genre, je ne suis pas sectaire, je m'intéresse aussi à plein d'autres genres de cinéma. Mmh. Mais je trouve que s'il fallait en garder un, ça serait peut-être celui-là. Mmh. Parce qu'il y a de la joie là-dedans. Et en fait, on a besoin de ça. On a besoin de joie, on a besoin de dépasser les problèmes du quotidien. Enfin, le monde est vraiment dur.
Oui.
Et la comédie, je trouve que c'est un genre qui fait du bien.
Oui. Voilà,
et qui nous aide à traverser le monde. Mm. Et puis c'est aussi l'occasion, encore une fois, d'aborder des thématiques sérieuses.
Oui.
Des sujets politiques.
Oui.
On aborde la religion, oui. les croyances.
Oui. Et c'est complètement irrévérencieux. C'est-à-dire qu'ils ont quand même, par rapport à toutes les institutions, j'allais dire, et une irrévérence qui fait que ça nous plaît, hein, parce que forcément, c'est d'une liberté folle.
Mais on a besoin, en fait, de l'art en général pour porter ce genre de message.
Alors pourquoi celui-là et pas Sacré Graal
Ça a été compliqué pour moi de faire une sélection de films. J'ai choisi des vieilleries à dessin. C'est la musique qui a fait la différence,
d'accord.
Je pense.
Ah oui.
Sacré Graal, j'adore aussi.
Ouais. C'est donc le son.
Oui. Après, le son, c'est pas que la musique. Hein.
Oui, c'est clair. Oui, complètement.
Mais cette chanson, elle reste, quoi.
Ouais. Il faut le revoir avec ses enfants aussi pour leur faire découvrir le monde des Monty Python. Hein, ils n'iraient pas forcément par eux-mêmes vers ce genre de cinéma, mais je pense qu'ils vont se poiler de la même façon encore aujourd'hui.
Très bonne idée, ouais.
Il me semble.
Je vais mettre ça sur la liste.
Et voilà, des enfants, ça peut faire partie des films à voir pendant les vacances en famille.
Parlons maintenant avec toi, Raphaël, de ton travail dans le domaine du cinéma. Alors, tu es chef opérateur du son et tu fais aussi de la post-production. Là, d'abord, première question, qu'est-ce qui t'a amené à te lancer dans ce métier ?
Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça a été progressif. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais bon, à l'arrivée, l'idée de raconter des histoires, c'est quand même un moteur qui fait que je continue à avoir envie. Je suis passé par différentes étapes. J'ai travaillé à différents postes. Et puis, je pense que depuis le départ, j'avais quand même cette sensibilité pour le son.
D'accord. Ouais. Donc, tu as fait une formation particulière au départ ou qu'est-ce que...
Alors, ça, c'est une question intéressante. Mmh. Oui, j'ai fait une formation, mais ce n'est pas forcément la formation qu'on pourrait attendre. Et disons que l'apprentissage, pour moi, il est au quotidien. Et je suis avant tout autodidacte.
D'accord.
J'ai fait un BTS audiovisuel.
Ok.
Mais quand j'y repense aujourd'hui dans ma pratique, il y a beaucoup de choses qui ont changé, ouais. Des choses que je me suis appropriées, que j'ai approfondies.
Les outils changent aussi.
Les outils changent aussi, oui. Ouais. Oui, on pourra en parler et ils vont continuer à changer manière drastique, je pense.
D'accord.
Et il y a une petite révolution qui arrive là, oui.
D'accord.
Oui, qui est déjà à l'œuvre.
Mmh. Ah, tu as fait un BTS audiovisuel quand même.
J'ai fait un BTS audiovisuel.
Ça, voilà,
oui.
Ça indiquait quand même un domaine vers lequel tu souhaitais aller.
Oui, bien sûr.
Ouais,
mais cela dit, voilà, j'étais musicien également. Je suis rentré dans la technique du son en premier lieu grâce à la musique. Et puis, de fil en aiguille, j'ai découvert des nouveaux champs des nouveaux champs d'application et le son à l'image c'est devenu aujourd'hui mon domaine de prédilection. Ouais.
D'accord, oui, parce que le son va... en quoi c'est essentiel pour toi le son, parce que tu dis que tu as une attirance particulière pour le son c'est les voix, c'est la musique, c'est les sons de la vie quotidienne, voilà. Mmh. en quoi est-ce que c'est important?
On est baigné dans le son 24 heures sur 24. L'image aussi, mais on peut fermer les yeux. Mm. Ah, on ne peut pas fermer les oreilles.
Oui.
Et donc, qu'on le veuille ou non, on est tout le temps baigné dans cet univers sonore. Et c'est un outil très, très puissant pour raconter les choses.
D'accord. Et alors, donc, tu es chef opérateur du son. Donc, quel est ton rôle pendant un tournage? Donc, quand tu arrives sur un tournage, qu'est-ce que tu fais? Quel est ton rôle?
Le principe, il est très simple. C'est que le rôle du chef opérateur du son, avec son binôme à la perche, ça va être de capter le son direct. Le son direct, c'est tout ce qui se déroule devant la caméra au moment du tournage. Mm-hmm. Essentiellement de la voix, mais on va avoir aussi toutes les actions et puis pourquoi pas de l'ambiance où on va chercher aussi des sons seuls, quand on a le temps, quand on peut.
D'accord.
Donc la mission, elle est très simple.
Ok, donc c'est juste capter sur le moment.
Oui, tous les coups sont permis. On utilise différentes techniques, différents outils pour pouvoir attraper tous ces sons.
D'accord. Quand tu disais tout à l'heure que les choses ont évolué, est-ce que ça a évolué sur la prise de son en particulier? Est-ce que le matériel a changé ou c'est plutôt sur la post-production?
Alors, depuis, tout dépend à quelle échelle on se situe. Hein, le cinéma a un peu plus d'une centaine d'années aujourd'hui, donc on ne va pas refaire toute l'histoire, mais par rapport au début du cinéma, oui, il y a eu une grosse évolution. Avec le numérique, là, ça fait déjà quelques temps, on a multiplié le nombre de pistes, on a augmenté aussi la qualité, les résolutions, tout comme en images. Et donc... les outils nous permettent d'aller plus loin. Là où ça va être vraiment, je pense, de la folie dans les années à venir, c'est que dans le domaine de la post-production, on va avoir des nouveaux outils qui sont en train de... On en est au balbutiement, mais qui sont en train d'apparaître, liés notamment à l'intelligence artificielle. Mm-hmm. Et ça pose énormément, énormément de questions sur le devenir de nos métiers, la façon dont on va travailler, comment est-ce que ces outils-là vont être acceptés. Moi, je pense qu'il y a une grosse discussion à avoir autour de ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle n'a pas lieu, cette discussion.
J'ai l'impression qu'on se laisse un peu emporter par des choses qui semblent irréversibles.
Les choses se font. Et ça va très très vite. On va se faire, dépasser par les machines dans mon domaine d'activité qui est le son à l'image. Mais je pense que ça va être le cas dans tous les domaines de la société.
Dans le domaine du cinéma, je pense aussi en partie, par exemple, aux voix off, enfin, tout ce qui est traduction.
Alors, il y a eu une levée de bouclier qui a eu lieu par les acteurs, les comédiens de doublage. Et ils se mobilisent. Les scénaristes aussi ont bougé. Les choses se font, mais j'ai l'impression que c'est très, très timide. Et puis surtout, là, on a un tsunami qui arrive. Aujourd'hui, on a des modèles de langage qui nous permettent de générer du texte. On a les balbutiements de la synthèse de la voix. On va avoir de plus en plus des systèmes d'intelligence d'IA générative. Et ça, j'ai l'impression que on n'en parle pas beaucoup. Des outils qui vont être intégrés au logiciel de montage. Je pense, moi, je me demande en fait si dans 10 ans, 15 ans, est-ce que le job de monteur son existera toujours ? Est-ce que le job de mixeur existera toujours ? En fait, je provoque un peu quand je dis ça. Je suis persuadé que oui. Mais il va y avoir des choix à faire. Je pense qu'il va y avoir à un moment une scission. Et puis, ça va dépendre beaucoup de l'adhésion du public. Dans le fond, moi, personnellement, je n'ai pas envie de voir des films générés par des machines. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est l'humanité dans les œuvres. Mais là, je parle d'œuvres. Et dans le domaine de l'audiovisuel, on a beaucoup de productions qui sont des produits de divertissement ou des programmes qui ont juste une fonction.
Ça revient au film Idiocratie, hein, quand même.
Mais oui,
sur le rôle du divertissement.
C'est un peu pour ça que j'ai choisi le film Idiocratie. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des petites choses qui se réalisent dans ce film, on se dit « Oh, c'est pas possible !»
Mais en fait, c'est exagéré.
Mais la suite du film, c'est écrit.
Alors peut-être que ce sera des formes de résistance aussi. Moi, je pense aux voix en particulier, les voix générées. Ben, on les reconnaît. Alors aujourd'hui, on les reconnaît, mais peut-être que ça va effectivement changer. Peut-être qu'ils vont être capables de récupérer des voix un peu différentes,
plus complexes. C'est un bébé.
Oui, c'est ça.
Souvenons-nous, c'est un bébé qui a à peine 3 ans. C'est plus ancien que ça, mais les premières applications qui ont été montrées et rendues publiques, c'était il y a 2-3 ans. Là, aujourd'hui, ça progresse à une vitesse phénoménale. Et ça va aller loin. Donc nous, aujourd'hui, en son, moi, ce que j'attends, c'est des modèles qui vont permettre de générer des effets, des ambiances. Ça existe déjà. Et aujourd'hui, ce n'est pas très efficace, on ne va pas se mentir. Mais ça viendra. Ce qu'il faudrait, en fait, c'est que les auteurs, les producteurs et le public se positionnent là-dessus. De se dire, un peu comme pour l'alimentation. À un moment de dire, moi, je mange du bio. Ça fera peut-être l'objet d'un label un jour. Et là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas une idée qui fait son chemin.
Et moi, j'ai envie de voir des films faits par des vrais humains.
Tout le monde a envie de ça. En fait, les productions, robots, productions machines ou IA, elles vont quand même faire leur chemin auprès d'un public qui n'aura pas l'information, qui n'aura pas en tête le choix de cet enjeu. Mais aujourd'hui, quand on regarde comment fonctionnent les médias, les réseaux sociaux, la télévision, ou même le cinéma, le cinéma de supermarché, les multiplex, les grosses machines commerciales, aujourd'hui, c'est des produits de consommation et on pousse à coup de marketing et l'idée, c'est d'amener les clients à consommer.
Oui, mais
donc, ce qui est important, c'est qu'on défende notre travail en tant qu'œuvre. On n'est pas en train de faire des produits de consommation lambda. C'est vraiment ce qui distingue l'activité autour du cinéma et de la création. On est sur quelque chose de fragile, de sensible et surtout de très précieux.
Oui, et puis on est dans la création. Pas l'oublier aussi. Parce que les machines peuvent remplacer l'esprit créatif, que ce soit des réalisateurs, des comédiens, des chefs opérateurs du son. Enfin, et ça, c'est vraiment un enjeu, effectivement.
Il va falloir, je pense, mener cette bataille-là. Et c'est pas si simple, c'est pas manichéen. On ne va pas pouvoir dire il y a les bons films et les mauvais films. Oui. Parce que aujourd'hui, moi, je vois déjà dans ma pratique, j'utilise des outils qu'on pourrait qualifier d'IA, qui sont de l'algorithme, à qui on sous-traite des tâches répétitives et inintéressantes. Et moi, je suis ravi en fait de pouvoir me simplifier la tâche pour pouvoir porter mon attention sur des choses plus essentielles. Mais où se situe la limite? Pour moi, j'ai ma réponse. C'est l'IA générative. Je pense que là,
c'est quoi la différence?
L'IA générative, en fait, c'est compliqué à expliquer.
Allez, essaye.
Alors, l'IA générative, c'est ça va être des modèles qui sont entraînés à partir de données existantes, d'œuvres existantes. C'est facile de faire le parallèle avec l'image. Aujourd'hui, on a des modèles qui nous sortent des images dans le style manga, dans le style photo rétro, dans le style dessin animé ou dans le style X ou Y. Tous ces modèles, ils ont été entraînés sur des datasets dont on ne connaît pas forcément l'origine. C'est là où je pense qu'il y a un problème. Et que ces données qui sont utilisées peuvent être soumises aux droits d'auteur. Et donc, on n'a aucun moyen de le vérifier, ça, à part la bonne foi, en fait, des développeurs. Et ça, ce n'est pas réglementé. Tous vont dire, nous, on est éthique, on ne triche pas. Mais en fait, c'est certain qu'ils ont tous déjà pillé le web en long, en large et en travers. Et pour la musique, pour les images et pour le son aussi.
Alors, pour revenir à ton travail, Raphaël, quel est le premier film sur lequel tu as travaillé? Est-ce que tu te souviens en tant que chef opérateur du son?
Je n'ai aucun souvenir de ça parce que j'ai travaillé sur plein de formats, de programmes, d'œuvres différentes. Et j'ai commencé en fait par une activité d'éducation à l'image. D'accord. C'était pour moi une sorte de labo, un champ d'expérimentation assez énorme. J'ai fait beaucoup de films dans le cadre d'ateliers en tant qu'animateur. D'accord. Avec des scolaires ou alors des ados, même des adultes, tout un tas de différents publics. Et donc à l'époque, c'était déjà des films d'ateliers. Et ensuite, des films en autoproduction, des petites productions fauchées, ainsi de suite. Et puis jusqu'à ce que ce soit viable professionnellement parlant. Passer par le film d'entreprise aussi, le film de commande, tout un tas de choses. Donc le premier film, je suis incapable de le dire, il y a tellement.
Alors tu travailles beaucoup, j'ai vu sur des formats courts-métrages, il me semble, ces derniers temps. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les courts-métrages par rapport au long-métrage?
Alors, je suis spécialisé dans la fiction, c'est quasiment la totalité de mon activité. C'est un choix que j'ai fait. Et c'est un choix qui implique un certain coût pour moi. Parce que dans le contexte ici régional, c'est pas évident de, comment dire, de remplir le calendrier. Le modèle économique aujourd'hui avec lequel je fonctionne, c'est autour du court-métrage, parce que tout simplement les opportunités de long, elles se font rares. Ça se passe à Paris.
Oui.
Et donc moi j'ai fait le choix de rester en Pays de Loire. Mais je suis quand même très content, parce qu'il y a, il y a suffisamment de projets pour que je sois occupé toute l'année. Et puis c'est beaucoup de rencontres. En fait, sur une année, là, depuis 2018-2019, c'est une dizaine de films courts de fiction par an. Et donc autant de rencontres, autant de collaborations avec des réalisateurs.
Et tu travailles parfois avec le même réalisateur plusieurs fois
sur plusieurs films d'affilée. Ça arrive que...
Ou réalisatrice,
oui,
évidemment.
Oui, bien sûr, oui. Ça arrive.
Ok, d'accord. Alors, est-ce que, donc, pour la post-production, j'imagine que tu travailles vraiment en complicité avec le réalisateur. Comment ça se passe ?
Oui, beaucoup plus qu'en tournage. Le tournage, en général, c'est assez speed. Le réalisateur est sollicité de toutes parts et très préoccupé. Donc, moi, mon souci, c'est de... que le réalisateur ou la réalisatrice n'est pas le souci du son. Donc je prends en charge un maximum de ces questions-là pour qu'il puisse penser à sa mise en scène, être avec ses comédiens, par exemple. Et en post-production, à l'étape du montage son, c'est un travail qui se fait plus sur la longueur. Et puis on est dans l'intimité du studio, on est en général à deux ou à trois, et on a plus le temps d'aller dans le cœur du sujet. Et moi, ce que j'adore en fait dans ces rencontres-là, c'est de pouvoir échanger avec eux sur le pourquoi de leur projet.
Est-ce que toi, tu as par moment, tu suggères des choses auxquelles ils n'avaient pas forcément pensé?
Oui, c'est le job. Et c'est important pour moi de savoir qu'est-ce qui motive cette histoire.
Pour que ça corresponde à ce qu'avait imaginé le réalisateur, la réalisatrice. À un moment.
Bien sûr. Et puis c'est une façon de se rencontrer aussi. Ils partent sur des scénarios. C'est jamais innocent. Il y a toujours un point de départ. Il y a toujours une idée à porter, ou alors quelque chose à réparer ou à défendre. C'est vraiment de porter une parole. Et ces moments en montage son, là où on va se prendre vraiment le temps, je trouve qu'ils sont très très précieux, et c'est ça qui me motive aujourd'hui.
Alors, quels sont tes projets?
La semaine prochaine, on part au Mans pour faire une fiction qui se passe dans l'univers de l'école.
Ok. École primaire.
C'est une école primaire.
Primaire.
Claude Sossereau, un réalisateur du Mans, qui est enseignant d'ailleurs. À côté de ça, à mi-temps, et qui donne tout son temps libre pour sa passion, qui est semi-professionnel, disons.
D'accord.
Donc il connaît très très bien ce milieu de la décolle de l'enseignement, et il aborde aussi le thème de la violence domestique.
D'accord. Ok. C'est une fiction.
Oui, c'est une fiction.
D'accord.
Oui. Oui.
Ok.
Avec Armel Deutsch qui interprète le rôle principal. Et donc là, on est sur un sujet lourd, sérieux, et je trouve que c'est important de porter des films comme ça. Après, on a un autre film avec Basile Katir, avec qui on a déjà collaboré sur son précédent film, qui lui va traiter plutôt du thème de l'adolescence et de l'errance, les questions qu'on peut se poser à cet âge-là. Donc, il traite le même thème que dans son film précédent. Ça, c'est son sujet à lui.
D'accord.
Après, on a un autre film en montage son qui suit, qui est sur des jeunes hommes issus de l'immigration, qui sont un peu perdus et qui se retrouvent dans un univers complètement différent de ce qui pourrait leur être familier en campagne, dans le sud. Et donc, ils partent dans une quête de recherche d'or dans okay. les rivières.
Ouais.
Et puis, il y en a encore d'autres.
Eldorado.
Des projets comme ça. Oui, ouais, c'est ça. Ouais,
okay.
C'est ça.
Fiction. Okay.
Et donc, tout rate, bien sûr. Il n'y a rien ouais. qui marche. Ouais. On est sur un volet un peu comédie avec...
Mm-hmm. Ok.
Très, très chouette.
Ok.
Et puis, il y a un documentaire aussi qui arrive. On tourne une autre petite comédie de Noël au mois de décembre. Et puis, j'en oublie certainement.
Ben, super.
Oui, mais il y a toujours...
Un agenda bien rempli, pour
oui,
le coup.
Un agenda bien rempli. Oui, 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 oui.
Super. Eh bien, merci beaucoup,
merci.
Raphaël, pour ce précieux témoignage sur le métier de chef opérateur du son et de post-production, qui sont finalement des rouages essentiels aussi à la fabrication d'un film. Vous êtes toujours sur Jet FM 91.2 à l'écoute de Film et moi, l'émission mensuelle sur et pour le cinéma. Cet automne, venez vous réchauffer devant les écrans de vos salles préférées qui nous proposent encore de riches programmations et événements en tout genre qui ne pourront que vous plaire, dont j'ai fait une petite sélection. Au 14 à Nantes, vous pourrez partir sur les traces de Joseph Mengele avec la disparition de Joseph Mengele de Kirill Serebrennikov qui décortique l'organisation méthodique de sa disparition en Amérique du Sud pour échapper à un procès. Vous pourrez aussi vous plonger dans la vie de Franz Kafka dans Franz K. de Agnieszka Hollande. Vous pourrez retrouver le dernier film du génial réalisateur Tariq Saleh après Le Caire confidentiel et avec l'incroyable acteur Fares Fares dans une fable satirique sur la dictature militaire en Égypte. Vous pourrez aussi suivre une enquêtrice de l'IGPN chargée d'établir la responsabilité des policiers à la suite de violences policières lors de manifestations, interprétée par la talentueuse Léa Drucker dans Dossier 137, le dernier film de Dominique Moll. Au cinématographe à Nantes, le mardi 11 novembre, dans le cadre du festival itinérant de musique d'avant-garde Déroute, vous pourrez découvrir le parcours de Francis Falsetto, découvreur de musique d'underground dans les années 70 en France et en Afrique, dans le documentaire « Éthiopique suite magnétique » de Stéphane Jourdain. Les plus petits trouveront aussi de quoi se régaler au festival Les Lucioles avec des films et des ateliers jusqu'au 19 novembre, au cinématographe au Concorde et au cinéma Bonne-Garde. La riche programmation est à découvrir sur le site du cinématographe. Au cinéma Saint-Paul à Rezé, le 2 novembre, découvrez le cinéma ukrainien avec deux films. Première classe, documentaire bouleversant de Katerina Gornostai qui trace le portrait de l'école en temps de guerre et Honeymoon de Zana Ozirna, huis clos attachant. Et vous pourrez, à l'issue des projections, échanger avec l'association franco-ukrainienne Volia. Et plein d'autres riches programmations divertissantes, émouvantes, éprouvantes, éclairantes, résistantes que vous pouvez retrouver sur les sites de vos cinémas préférés, les 35 cinémas de notre département. Alors surtout, gardez intact votre appétit de cinéma cet automne pour continuer à faire vivre nos salles préférées. Merci aussi à Jérôme pour son accompagnement technique essentiel. Jérôme que l'on retrouvera pour la bande originale émission, bande son, pardon, émission autour de la musique de film tous les lundis à 20h sur les ondes de Jet. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau Film et moi en direct tous les derniers mardis du mois ou en podcast sur le site de Jet.
C'était Film et moi, l'émission cinéma mensuelle sur Jet 91.2. Retrouvez-nous aussi en podcast sur le site de Jet, jetfm.fr.